Le yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour.
Alors, nous continuons notre série sur les fêtes, donc les fêtes de Tishri, bien sûr. Et voilà encore un texte sur Rosh Hashanah, écrit par Israël Yehoshua Zinger dans ce livre vraiment que je trouve formidable qui s'appelle « D'un monde qui n'est plus ». Donc, Israël Yehoshua Zinger commence à écrire ses mémoires pendant la guerre, en 1942-43, je ne sais pas exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il meurt en 1944 d'une crise cardiaque. Donc, ce texte reste inachevé et ne concerne finalement que son enfance. Alors, c'est un texte qui est vraiment, comment dire, où il n'y a pas de nostalgie, c'est-à-dire qu'il décrit vraiment une enfance très, très triste. Il dit lui-même que c'est triste. C'est la période où ils n'ont pas du tout d'argent, où ils sont dans des villages, donc son père, sa mère, sa sœur et lui. Ensuite, il y a deux petites sœurs qui meurent en bas âge, et cette religion qui pèse. Donc lui, c'est un enfant qui a envie de courir, de sortir, de s'amuser, d'être dans la nature. Et ça, c'est tout le temps réprimé. On n'arrête pas de lui dire qu'il doit étudier. Ceci dit, il a une très bonne tête, hein. Il a vraiment beaucoup étudié et finalement il est devenu écrivain, mais il trouve tout ça extrêmement pesant. Et par ailleurs, il y a quand même une description aussi de personnes qui passent dans la maison, donc tous ces gens qui viennent consulter son père ou son grand-père et qui sont décrits avec beaucoup de finesse, beaucoup de sympathie aussi. Voilà, donc ça répond évidemment au texte de Isaac Bashevisinger au tribunal de mon père, qui lui est par contre tout à fait empreint de nostalgie parce qu'il a été écrit beaucoup plus tard, à un moment où on savait que tout cela avait disparu. À l'époque où Israël Yehoshua Zinger écrit, on sait aussi que ce monde est en train de disparaître. Mais bon, lui écrit plutôt en disant que ce monde a disparu parce que par le passage du temps, hein, c'est plutôt cela. Et il n'y a pas du tout d'allusion à la Shoah qui est en train de se dérouler au moment où il écrit. Voilà, donc c'est traduit du yiddish par Henri Lévy, édition de Noël, vraiment un livre très, très, très important et qui répond aussi au texte d'Esther Kreitman, de la sœur de Bashevisinger et de Yehoshua Zinger, donc une famille où trois enfants sont écrivains, trois enfants sur les quatre qui ont survécu, et vraiment c'est très très intéressant de comparer les œuvres de ces écrivains. Et d'ailleurs, je signale au passage que il y aura une présentation de la famille Zinger par la famille Niborski qui aura lieu ce samedi à la Maison de la Culture Yiddish. Voilà, donc, alors, Rosh Hashanah, effectivement, comment il écrit Rosh Hashanah ? C'est en fait le Rosh Hashanah de l'année sans doute 1905, qui est une année extrêmement perturbée, où il y a la guerre russo-japonaise, il y a également une révolte, une première révolution en Russie, mais qui va complètement rater, qui va être écrasée. Et il y a l'idée que ça va être la venue du Messie. Hein. Donc, il y a tout un chapitre où il décrit comment le Messie arrive, enfin, comment les gens sont persuadés que le Messie va arriver, voilà. Donc, avec la guerre de Gog et Magog. Et voilà ce qu'il écrit sur lui-même. « Je pris tant à cœur l'arrivée du Messie que j'y pensais jour et nuit, tout en berçant mon petit frère, donc il s'agit sans doute de Bashevisinger, hein, qui a une dizaine d'années de moins que lui. » J'imaginais que le berceau était une voiture où étaient assis mon père, ma mère, ma sœur Hinde et mes frères, en même temps que ressuscitaient mes deux petites sœurs mortes et que j'étais le voiturier qui les menait tous en terre d'Israël. Je poussais si vite le berceau que plus d'une fois je le renversais et jetais à terre le bébé. Ma mère me regardait de ses grands yeux gris et déclarait que décidément, et que cela n'arrive qu'aux ennemis de Sion, que décidément j'étais fou. Ma sœur, elle-même grande rêveuse et esprit passionné comme mon père, excitait encore plus mon imagination en évoquant par ses anecdotes la belle vie qui nous attendait un jour ou l'autre, lorsque se ferait entendre à travers les airs la corne du Messie, 3 jours de suite annonçant la bonne nouvelle, les Juifs reviennent dans leurs frontières sur leur territoire. Voilà, donc tous ces Juifs sont absolument persuadés qu'arrive le Messie, ils cessent de réparer leur maison, ils cessent de faire des provisions, et ils passent leur vie à écouter des récits extraordinaires.
C'est plutôt le père alors, parce qu'on le sait par les récits de Isaac Bashevis, que le père était chasside et mystique, et la mère pas du tout.
Oui, c'est le père, c'est le père qui entretient ça.
Est-ce qu'elle rentre aussi dans le...
Alors là, la mère n'est pas évoquée, sinon pour dire que son fils est fou.
Elle le regarde d'un air mauvais, ouais.
Oui, oui, elle... non, là, bon, je pense qu'elle se tenait... Enfin, elle restait silencieuse, hein, elle n'intervenait pas dans cette histoire, mais effectivement, c'est le père qui est là tout à fait devant de la scène. Alors, voilà donc comment se trouve... Alors, pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi l'avenue du Messie ? Parce que c'est l'année 5666. Donc, nous avons calculé que c'est sans doute l'année 1905. Voilà, donc...
Et pourquoi ? C'est parce qu'il y a tous ces six.
Oui,
à la
je
suite.
Pense que c'est ça, ouais. C'est ça. Et puis, c'est les calculs de Gematria. Le dernier mois de l'année 5666 arriva. La corne du bélier retentit. Non pas celle du Messie, mais le chauffard de la maison d'études dans lequel Reb Bocher-Wolf, le sonneur, s'était exercé à souffler. Chaque jour, la tension montait un peu plus. L'année 5666 approchait de plus en plus de sa fin, mais le Messie n'était toujours pas venu. Mon père, le croyant, n'avait pas perdu espoir. Après tout, il restait du temps. Chaque jour, à toute heure, à tout instant, le Messie pouvait apparaître. Les jours s'étiraient comme des éternités. Toute une veille de Rosh Hashanah, les Juifs ne cessèrent de regarder le ciel, de guetter le moindre bruit. On croyait qu'il en serait comme avec des hôtes chers qui ont l'habitude d'arriver à la dernière minute, quand on les attend déjà avec impatience. L'hôte le plus cher, le Messie, viendrait à la dernière minute de l'an 5666. Donc, évidemment, avant qu'on passe à l'année 5667. Même en allant à la maison d'études pour Minra, on attendit que montent 3 étoiles dans le ciel. C'était encore l'année 5666 et la merveille pouvait se produire. Mais les étoiles se montrèrent dans le ciel, dans un ciel banal qui ressemblait à celui des soirs ordinaires. Du champ qui jouxtait la maison d'études, le porcher de Grouski rentrait ses bêtes immondes. Tout était quotidien, habituel et gris comme les jours de l'exil. Mon père jeta un dernier regard vers le ciel et d'une voix brisée, il ordonna qu'on priât pour Maariv. Le maître de prière fit ses vocalises et ses tris du nouvel an sur Kirem Hayenu et les gamins vinrent à son aide avec leur aïe aïe aïe, assurés et chantés ne procuraient aucun plaisir. Les souhaits de bonne année que les Juifs échangeaient entre eux après la prière ne donnaient non plus aucun plaisir. Même l'oiseau, la brioche ronde qu'on mange à Rosh Hashanah avec du miel, voilà une coutume que je ne connais pas, l'oiseau, qui est une brioche, hein, c'est pas un vrai oiseau, n'avait pas sa douceur habituelle. Les Juifs étaient déçus, désorientés. Et le plus déçu et désorienté de tous était mon père. Il avait honte, honte devant les chefs de famille, devant moi, devant ma mère, devant lui-même. J'ai été en colère, amère, plus de terre d'Israël, plus de bœuf messianique ni de Léviathan, plus d'esclaves ni de servantes. À nouveau, les sables de l'Enchine et à côté de la maison d'études, le champ où des porcs paissaient, sous l'œil goy du fils de Grouski, celui qui avait profané le petit rouleau de Torah. À nouveau, les éternels goyim, les gamins goy et leurs chiens, les ennemis des gamins juifs. Le chantre de la maison d'études multipliait particulièrement ses pleurs en chantant le « Uvechen ten pardecho », mais je n'y croyais plus, je n'espérais plus que Dieu enverrait la crainte de son nom à tous les peuples et glorifierait son peuple par le moyen du fils de Jessé, son Messie de nos jours même. J'eus pendant les 18 bénédictions du jour toutes sortes de pensées pécheresses. qu'envers les sonneries du chauffard et qu'il fallut dire « Plaise à Dieu aux anges pour qu'ils portent ces sonneries juives auprès du trône de gloire », le mauvais penchant m'incita à faire une chose effrayante. Dans mon rituel se trouvait imprimé un avertissement. Au moment de dire « Plaise à Dieu », il fallait faire très attention de ne pas nommer le char Shel-Esh, l'ange préposé au feu, parce que si on l'appelait par son nom, on pouvait réduire en cendres le monde entier. Je me rappelle encore le texte de l'avertissement. J'avais depuis longtemps envie d'appeler par son nom cet ange flamboyant. Le sort du monde était entre mes mains. Je pouvais le laisser dans l'état où il était depuis 5666 ans et un jour, comme le réduire en cendres en un instant. Mais par une volonté de fer, je me retenais. Je savais que je serais l'un de ceux qui brûleraient dans l'incendie et préférais ne rien faire, sauver ma peau. À Rosh Hashanah de l'année 5666, ma croyance dans les livres sacrés en prit un sérieux coup. Tous avaient indiqué la venue du Messie et il n'était pas venu. La vie n'était pas devenue meilleure ni plus douce. Je pris le risque. Quoique ne croyant plus aussi fort en cet avertissement, j'en avais encore peur. À voix basse, pour que personne n'entendît, m'attendant au pire, j'appelais par son nom l'ange de feu, fermant les yeux pour ne pas voir la destruction du monde. Un instant, j'attendis, une flamme rouge à l'intérieur de mes yeux fermés. Quand je les rouvris et vis que tout était comme avant, je respirais plus librement, comme si j'avais évité une terrible catastrophe. J'étais intact, les juifs de la synagogue étaient intacts, mais ma croyance dans les livres sacrés n'était pas intacte. À la place des fissures, des doutes antérieurs, il y avait maintenant des brèches profondes. Et pour la première fois, je regardais les Cohen pendant la bénédiction sacerdotale, bien qu'on m'ait averti de ne pas le faire sous peine de devenir aveugle. Voilà, donc c'est ce Rosh Hashanah plus que raté, peut-on dire, avec ce côté très rationaliste hein, de Yehoshua Zinger qui se moque, mais tout en ayant quand même beaucoup de pitié pour ces Juifs tellement croyants et qui sont, comment dire, qui sacrifient tout à des illusions et à une foi extrêmement profonde.
Chassidique, quoi. C'est des
chassidiques, oui, c'est chassidique, c'est vrai, il y a quelque chose... Oui, bien sûr, son père était un chassid. D'ailleurs, c'est le rabbin de guerre qui avait décidé que ce serait le...
Parce que c'est local, parce qu'on se demande, bon, c'était avant Internet et la mondialisation, est-ce qu'il y a d'autres endroits au même moment où on croyait à ça ?
C'est très intéressant, oui. Écoute, je ne sais pas, je ne sais pas du tout.
Ça doit être de toute façon quand même 1905 en France. C'est quelque chose avec l'affaire Dreyfus ou avec la séparation de l'Église et l'État. Ce n'est pas des grandes dates de révolution, de grandes difficultés, de grandes misères. C'est quand même lié à la situation de la vie laïque, de la vie civile.
Oui, c'est lié à une période, mais bon, qui n'est pas la seule, une période très difficile pour les Juifs de Russie, de l'Empire russe. Mais enfin, ça, c'est pas spécial
1905.
Spécial, non. Non, ce qu'il y a eu en 1905, c'est vraiment, alors il n'y fait pas allusion, mais il y a eu cette révolution dont je parlais et qui a vraiment été portée par beaucoup d'espoir, mais d'espoir de genre révolutionnaire, socialiste, communiste.
Oui, enfin, mais c'est un peu la même problématique finalement. Eux, les révolutionnaires, c'est par la force, quoi, hein, par les armes, par la prise du pouvoir. Et eux, c'est par le soutien de Dieu, quoi, finalement. Mais là, c'est un petit peu aller vers un monde meilleur.
Oui, bien sûr. On a souvent dit que le communisme était un messianisme laïque, hein, absolument. Ça. Et c'est vrai que c'est comme ça que les jeunes juifs religieux ont basculé du jour au lendemain.
Ouais, En tout cas, c'est magnifiquement raconté.
C'est magnifiquement raconté.
Hein. Ces états d'âme, comme ça.
Alors cet enfant, voilà, c'est vraiment le jeune garçon, bah, il doit être autour de sa bar mitzvah, hein, quelque chose comme ça, 10, 12, 13 ans, qui à la fois a encore en tête tout ce qu'on lui a raconté, toutes ces menaces, etc. Et en même temps, il n'arrive plus à y croire. Ouais. Hein, voilà. Donc, oui, c'est très bien, très, très bien. C'est très finement décrit. Ce que je disais, c'est toujours psychologiquement très fin.
Bon, un rapport pas immédiat, pas proche avec ce qu'on vient d'entendre, mais je voulais faire entendre le duo Paillette-Cugno, donc clarinettiste et pianiste, qui ont beaucoup joué ensemble. Ce disque est un petit peu ancien, il date de 1992, après un concert, donc c'est un enregistrement public. Et c'est un rapport avec le fait que voilà, la chorale Lommersingen recommence sa tournée de concerts. On en a un en octobre au Musée juif de Buxwiller, on en a un en novembre à la Communauté libérale, on en parlera encore. Et le duo là reprend un des morceaux phares de notre programme, qui est intéressant parce que la chanson « Der Rebbe hat geheißen Freilich sein », le rabbin a donné l'ordre d'être joyeuse, qui est une chanson de mariage, une chanson joyeuse, a été repris en français par cette fameuse chanson « Tire l'aiguille ma fille, demain tu te maries » avec une parole un peu niaise, ce qui n'est pas le cas en yiddish et qui n'est pas la traduction. Enfin, si, il y a quand même une histoire de mariage, mais après c'est la fille qui doit être belle, il n'est pas question de ça dans le texte en yiddish. Et donc ici, c'est une improvisation à partir de cette thématique qui est très réussie, très imaginative. Et puis aussi, ce qui m'a fait penser à utiliser ça pour illustrer une émission consacrée à Rosh Hashanah, c'est l'importance de la clarinette dans la tradition klezmer, qui rappelle le shofar, et on l'entendra un petit peu plus dans la deuxième plage du même disque que je voudrais faire entendre. Donc ici, c'est « Tire l'aiguille » par le duo Paillette-Cugno.
Thank you.
Oui, voilà. Oui, c'est virtuose. Nous ne chantons pas aussi
non,
aussi
non
vite,
ça va de plus en plus vite. Vélocité, virtuosité. Alors, je voulais dire que Nano, c'est son prénom, Paylet, a joué avec Bratsch et a été un des créateurs du fameux groupe Orient Express Moving Schnorrers, qui était très important dans les années, jusqu'en 2000, je dirais 2005. Il est âgé maintenant et c'était vraiment un remarquable clarinettiste. Alors, la prochaine fois, peut-être, on parlera plutôt de Yom Kippour. On parlera à nouveau du son du shofar et je ferai entendre donc une autre plage du même disque où je trouve que sa manière de jouer fait vraiment penser au shofar.
Voilà, donc, quelques phrases encore après ce passage. Donc, en fait, tout le monde est déprimé, hein, donc il continue. Après les jours redoutables commencèrent dans la bourgade des jours difficiles, des pluies automnales tombées à verse des ciels plombés. Yoshie et Glücksker, qui croyaient à la venue du Messie, n'avaient pas eu envie de réparer son toit d'isoin en rapiéça les trous de bardeaux sous la pluie. On mit aussi de nouvelles vitres et on rapetassa les vieilles dans les maisons juives. Sur le shtetl pesait une lourde mélancolie que rendaient encore plus lourde et plus insupportable les espérances lumineuses qui l'avaient précédée. Le plus accablé de tous était mon père. Il n'avait évidemment pas cessé de croire au Messie, mais que le Rédempteur ne fût pas venu en l'année 5666, l'année que désignaient toutes les allusions le torturaient. Ô maître du monde, père miséricordieux, combien de temps encore faudra-t-il souffrir, demandait-il au ciel chiffonné. Et donc, que fait-il? Il se lance de plus en plus dans l'écriture de ses chidushim. Alors, les chidushim, ce sont des commentaires de textes religieux, mais alors des commentaires de commentaires de commentaires. Et donc, lui, il essaye de justifier Rashi, de montrer que Rashi a raison contre d'autres commentateurs. Et voilà ce qu'il dit. « Quand j'arriverai dans l'autre monde et que les anges du ravage voudront me jeter en enfer pour mes grands péchés, j'aurai un intercesseur à la personne de Rashi parce que je l'ai justifié et ses mérites me défendront. Bien que je fusse encore un gamin, j'eus très envie de rire de la peur qu'avait mon père et des grands péchés dont il s'accusait. Ma mère ne rit point, mais elle le regarda de ses grands yeux gris qui voyaient tout et dit abruptement « Rashi se débrouillera bien tout seul. Tu ferais mieux de penser à nourrir ta maison. C'est aussi un commandement. Le Très-Haut nous viendra en aide. Tout s'arrangera. Béni soit son nom, dit mon père plein de confiance. Effectivement, vient un secours providentiel, mais je ne vous dirai pas de quoi il s'agit. Et je vous dis par contre, à la semaine prochaine. Shalom Aleichem.
J'espère qu'on en saura plus. Shalom Aleichem. Merci Thomas.
Le yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.